Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation le dernier vendredi du mois. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières et en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche, qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Eh bien, bonjour Guy.
Et merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Alors, au sommaire aujourd'hui, Pas dupe de Yves Ravet aux éditions de Minuit et Banlieue parisienne noire aux éditions Asphalte, un recueil de nouvelles présenté par Hervé Delouche. Vous avez bien entendu Hervé Delouche et il s'agit bien du Hervé qui est avec nous au téléphone et qui sera donc très bien placé pour nous parler de ce livre. Hervé, j'ai envie de dire pour commencer que Yves Ravet est un peu le chouchou de Variation en noir. C'est sans doute un des auteurs que nous avons le plus évoqué dans cette émission. À chaque fois, des bouquins courts, rapides, mais d'une très grande efficacité. Des livres publiés aux éditions de Minuit. Et donc, dès qu'on en voit un nouveau arriver sur les étalages des librairies, eh bien, on saute sur le Yves Ravet et on s'empresse d'en parler dans Variation en noir. Donc, Pas dupe est sorti il y a quelques semaines, hein, il y a très peu de temps, et encore une fois, donc, un roman court, 140 pages à peu près. J'ai envie de dire un roman simple, mais une simplicité très, très efficace. Peut-être aussi un roman américain, quelque part, et une histoire très simple, finalement, celle d'un accident de la route. On retrouve le corps de Tippi, la femme de Monsieur Meyer, parmi les débris de sa voiture au fond d'un ravin. Et à partir de là, c'est une enquête traditionnelle de police avec des suspects les plus classiques aussi, le mari et l'amant. Mais bon, quand on lit ce livre, ça pourrait paraître très simple, mais il se passe quelque chose, Hervé.
Oui, alors d'abord, je voudrais faire écho à ce que tu as dit au tout début. Oui, évidemment, Yves Ravet est un de nos chouchous, mais ça va être raccord avec notre précédente émission qui était le 1er mai en direct du Salon d'Arras et où on recevait notamment Marie-Caroline Aubert qui a coécrit Le Polar pour les Nuls. Et j'ai été regarder, il y a à la page 258 de cet ouvrage, un passage qui dit « Il est recommandé d'aller voir du côté d'Yves Ravet, et plus loin, ces ouvrages forment une œuvre singulière, attachante et définitivement perturbante. » Voilà, donc je pense que c'est un chouchou que nous partageons avec d'autres passionnés de romans noirs. Alors, ce que tu disais, c'est-à-dire que quand on pose comme ça les choses, elles sont d'une apparente simplicité. Moi, je dirais que c'est voilà, il y a le premier, il y a un côté évidemment utilisation des codes du polar et hommage particulièrement, je trouve, dans ce livre-là, pas dupe au roman noir et au film noir américain. Alors, comme tu le dis, c'est un peu en tout cas, c'est à la différence des précédents romans qui étaient plutôt dans des zones en province ou dans des zones un peu périurbaines, enfin voilà. Là, on est aux États-Unis, on est qu'est-ce que c'est à oui ben, vers
la Californie, je pense,
okay. Une banlieue de Los Angeles, le bassin de Santa Clarita, enfin voilà. Et puis dès l'ouverture, il y a un côté très roman noir américain, comportementaliste. J'ai revu Kowalski au bord du précipice le jour où la voiture de Tippi est sortie de la route. Ça fait un peu à la le début du Facteur sonne toujours deux fois, le roman un peu culte de James Cain. C'était la première phrase, c'était vers midi, ils m'ont vidé du camion de foin. Enfin, il y a un côté comme ça immédiat de mise en place, récit à la première personne, voilà, d'un personnage qui est cherche Salvatore Meyer, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
Qu'on va suivre d'un bout à l'autre. Alors, avec effectivement, sa femme a eu un accident de voiture. Elle conduisait vite. Elle avait l'habitude de boire dans la nuit, mais petit à petit, on va pas être Raven nous amène à ne pas être dupe non plus d'une. On se doute que ça va pas s'arrêter là. Et dans ces 140 pages, le récit ne va pas cesser de rebondir. On va apprendre des choses sur la demi-douzaine de personnages qui peuplent ce récit. Et pour une fois, parce que je crois que c'était pas non plus le cas, et on l'avait dit d'ailleurs des précédents romans, il y a un enquêteur.
Oui, un flic, un policier. Costa.
Qui n'est pas inintéressant.
Oui, mais
je te laisse la parole.
Oui, tu parlais d'une forme de clin d'œil au roman noir américain, et là on a clairement un clin d'œil, je pense, à Columbo. Ce propos, je cite un petit extrait à ce propos. Il a sorti son carnet. J'ai une question à vous poser. Elle n'est pas plus intéressante que les précédentes, mais elle va vous surprendre. C'est un témoignage. Alors là, complètement le hasard. Je ne devais même pas vous en parler, mais je ne peux m'en empêcher. C'est un témoignage plutôt anecdotique. Et donc, on a ce policier Costa qui mène l'enquête. Et vraiment, on imagine. Il y a aussi un endroit où il dit qu'il met le doigt sur son front. On voit complètement Peter Falk et Columbo. Hervé.
Ah ben complètement. Au tout début, par exemple, Costa m'attendait devant la porte de son bureau, un gobelet à la main. Il s'est précipité à ma rencontre. Vous avez eu raison de venir, Monsieur Meyer. Et de nouveau, il a voulu me rassurer. Cette convocation, c'était la routine dans ce genre d'affaires. Alors c'est assez drôle parce que on est à une quinzaine de pages du début et on va voir que il n'y a pas à être dupe de cette déclaration-là non plus, parce que ça ne va pas du tout être la routine, en fait.
Oui, exactement. Alors, on l'a dit aussi, c'est... Bon, il y a une écriture, une ambiance et un choix délibéré. Tu faisais référence, Hervé, à notre émission précédente en direct du Salon du Livre. Nous recevions Stéphanie Delestrée et Marie-Caroline Aubert, et nous avons évoqué Stéphanie Delestrée, directrice de la série Noire et de La Noire chez Gallimard, et nous avons évoqué rapidement un livre qui vient d'être publié dans la collection La Noire, William de William Gay, et un livre où le choix est fait, et l'auteur s'en explique d'ailleurs, de ne pas faire apparaître par des tirets ou par des guillemets les dialogues. Et là, on est exactement on est exactement dans la même situation. Il y a du dialogue qui se mélange avec des pensées, des vues de l'intérieur des personnages, et en fin de compte, ça fonctionne très très bien. Hervé, je suppose que tu en penses.
Ça fonctionne excellemment et c'est à mon avis là aussi une espèce d'appropriation. De toute façon, il l'a toujours dit, Yves Ravet, et je crois qu'on l'a dit ici, c'est-à-dire d'une écriture comportementaliste, c'est-à-dire que on entre dans le récit, comme on l'a vu, on est dans on est dans la tête de son narrateur, de Salvatore Meyer, et donc tout va être pris à partir de là, à partir de cette espèce de caméra-là. Enfin bon, voilà, donc, et c'est effectivement, oui, t'as raison de faire ce parallèle avec William Gay pour des textes différents mais noirs et d'extrême qualité littéraire, qui est que il y a ce souhait délibéré de ne pas faire appel à des artifices. Il y a d'autres artifices évidemment, puisque la littérature forcément c'est une recréation et c'en est un, mais effectivement de se dépouiller de ça, oui.
Voilà, donc nous le disions aussi, hein, un roman américain, bon, c'est une surprise, mais il y a un des autres auteurs, des éditions de Minuit, que nous suivons particulièrement, Tanguy Viel, qui s'était aussi essayé au genre, oui. Au genre du roman.
L'apparition de Jim Sullivan
Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, on a aussi le sentiment que c'est peut-être un passage, pas forcément obligé, mais un passage important pour les auteurs, effectivement, de faire référence quand même au genre du roman noir, qui est avant tout un genre américain né aux États-Unis, Hervé.
Oui, moi je pense qu'il y a ça. Avec un autre point, ils écrivent évidemment différemment, mais un autre point commun entre Tanguy Viel et notamment dans la disparition de Jim Sullivan d'ailleurs, et Yves Ravet, c'est aussi l'intrusion d'un certain comique, d'un certain humour plutôt fin, où effectivement dans celui-là, comme tu dis, cette espèce de double de Columbo qui crée quand même une espèce qui décale légèrement les choses, parce qu'on pourrait être dans du noir j'ai cité le facteur Sommes toujours deux fois, effectivement il y a des choses, y compris dans les faits, dans l'intrigue, Assurance sur la vie du même James Cain, le personnage, il a des côtés de certains personnages de Jim Thompson aussi, mais en même temps il y a ces petites notes drôlatiques, et y compris de façon hommage, les noms des personnages sont quand même toujours assez drôles, parce que je me souviens que dans notre précédente chronique, je crois que le personnage central s'appelait Marcello Martini.
Je pense, effectivement.
Et là, on a Salvatore Meyer, on a des...
Trois jours chez ma tante,
Plein d'œil, on avait eu... Il y avait, je crois que c'était les trois jours avec ma tante, il y avait une certaine Vicky Novak, c'était peut-être la tante d'ailleurs. Ici, on a Gladys Lamar, sa femme, celle qui est donc morte dans cet accident... entre guillemets ou pas, elle se prénomme Tippi, comme certaines héroïnes hitchcockiennes. Enfin, bon, bref, il y a quand même... c'est quand même des noms un petit peu... l'agent d'assurance, c'est Kowalski.
L'agent d'assurance et amant de Tippi.
Ah, moi, je ne voulais pas en dire trop tout de suite.
Ah, bon, on le sait très rapidement.
On
l'apprend très, très rapidement. Puisqu'il est là aussi, il est sur les lieux de l'accident très vite. Hein. Donc, en fin de compte, tous les personnages sont très rapidement sur les lieux de l'accident.
Oui, oui.
et avec et donc un inspecteur de police, un policier, Costa, qui, à la manière de Columbo, et c'est aussi ça qui fait penser, tend un piège, en fin de compte.
Oui, il tend un piège, voilà, parce que effectivement, comme d'habitude, ce roman de d'Yves Ravet est plein de faux semblants, de voilà, il y a des voilà, il y a des on sinue comme ça, et c'est en même temps c'est un polar très très extrêmement serré, avec un art du rebondissement qui n'est pas grandiloquent, mais qui est bien réel, comme je crois que c'est à la page 67, où à un moment, par exemple, on peut le dire, puisque là, justement, Costa révèle à Meyer, en fait, son amante le faisait chanter depuis peu, elle avait l'intention de révéler leur liaison à sa femme, car, savez-vous, il est marié, il a des enfants, et moi, je dois comprendre.
Je ne suis pas dupe du peu que tu m'avoues, du peu de rendez-vous que tu me donnes, du peu de coups de téléphone. Je ne suis pas dupe du peu que tu témoignes, du peu de messages d'amour quand tu t'éloignes, du peu de beaux discours. Je sais que tu m'aimes, oui même, si tu le dis peu. Je ne suis pas dupe, je peux t'aimer silencieux. Pas du peu que je t'offrais, du peu de temps, du peu de traces, du peu de place, du peu d'effet que tu m'as fait. Et tu n'es pas du peu que je dévoile, du peu de chaleur dans ma voix, au bout du fil, du peu de serments inutiles. Tu peux m'aimer silencieux. Je ne suis pas dupe du peu que tu m'accordes, du peu de regard langoureux quand tu m'abordes, du peu de transports amoureux. Tu n'es pas du peu que je te laisse, du peu d'égard pour ta faiblesse, quand je te blesse, du peu de souvenirs heureux. Tu sais que je t'aime. Tu peux m'aimer silencieux. Je sais que tu m'aimes, oui même, si tu le dis peu. Je ne suis pas dupé, je peux t'aimer silencieux.
Écoutez Radio PFM, Variation en noir, Jeanne Balibar, pas dupe, une chanson écrite.
Un choix extrêmement judicieux.
Merci. Bon, c'était simple. Hein.
Bon, quand même.
Une chanson de Pierre Alféri, mise en musique par Rodolphe Burger, extrait d'un disque donc de Jeanne Balibar par Amour. Donc nous avons évoqué pas dupe de...
Si tu permets, je voulais dire juste une dernière chose.
Vas-y.
C'est-à-dire qu'il y en aurait plein à dire, mais j'ai l'impression que Yves Ravet, il continue aussi, il y a toujours en creux dans ses livres, on l'avait déjà évoqué précédemment, il y a toujours une histoire de relations affectives aussi, parce que son narrateur, Salvatore Meyer, c'est un peu un type un peu dilettante, plutôt paumé, en tout cas un raté, ça c'est certain. Il est méprisé par son beau-père, par son père, enfin bon bref. Mais quand par exemple il épie, je le fais pas exprès, il épie Tipi la nuit alors qu'elle joue au billard au bar et qu'elle est avec son amant et tout ça, il y a même de manière tordu, même de manière éventuellement criminelle, il y a une histoire de relations affectives.
Tout à fait, une histoire d'amour. C'est aussi une histoire d'amour,
Complètement.
Ce roman. Voilà, donc Yves Ravet, pas dupe, aux éditions de Minuit, une lecture, bien sûr, que nous vous recommandons. Alors, Hervé, j'ai sous les yeux un livre, banlieue parisienne noire, banlieue parisienne au pluriel, et c'est indiqué Hervé Delouche présente. Donc, c'est toi qui présentes ce livre aux éditions Asphalt, 13 nouvelles noires, inédites, de 13 auteurs, donc, qui parcourent les banlieues parisiennes. Alors Hervé, petite présentation, comment ça s'est passé, d'où vient ce livre, les éditions Asphalt
Asphalt, je crois qu'elles existent depuis une dizaine d'années, elles ont fait, je fais très vite, mais enfin elles se sont pas mal fait remarquer en publiant des romans noirs, souvent, dans l'atmosphère en tout cas, latino-américain, espagnol, et puis quelques Français depuis peu, dont notamment Timothée de Meyer, dont on avait peut-être évoqué déjà Jusqu'à la bête, et qui est par ailleurs qui a une nouvelle dans ce recueil. Et puis à côté de ça, elles avaient aussi inauguré il y a 9 ans une collection noire sur des villes. Ça avait commencé avec Paris Noir, et puis il y a eu aussi bien Londres Noir, coordonnée par Cathy Hensworth, des endroits moins évidents comme Haïti, comme Beyrouth, il y a eu Barcelone, et puis aussi côté de l'Hexagone, Marseille, coordonnée par Cédric Fabre. Et puis voilà, et donc il y a un peu plus d'un an de cela, eh bien elles m'ont fait l'honneur et le plaisir de me proposer de coordonner un projet qui leur tenait à cœur depuis longtemps, qui était, après avoir commencé avec Paris, de faire les banlieues parisiennes. Et nous insistons sur le pluriel.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est bon, il y a bien sûr une préface, enfin une introduction à ce livre que tu signes, Hervé, Piéton de banlieue, et tu commences par expliquer que effectivement, trouver le titre de ce recueil n'a pas été facile, parce que bon, banlieue parisienne noire, c'est un peu long, mais en fin de compte, c'est quand même le titre qui est le plus évident, finalement, par rapport au contenu du livre, puisqu'il s'agit bien de cela.
Oui, parce que l'idée, c'était de s'inscrire en faux, en tout cas en contre, cette idée d'une banlieue unique qui pourrait être symbolisée, et qui l'est d'ailleurs dans les écrits ou les yeux de certains, comme une espèce d'ensemble, barre de cité, pavillon, centre commercial, etc. C'était de rendre compte de réalités très différentes, avec des habitants différents également. C'était aussi évidemment de s'inscrire en contre cette idée unificatrice d'un grand Paris à venir, dans lequel on peut éventuellement voir surtout une opération téléguidée par la capitale, disons, Paris la gloutonne, et en tout cas une opération urbanistico-financière, disons, un peu. Et donc, c'était de faire appel à des auteurs qui, ou bien habitent ces banlieues, en sont parfois des acteurs, ou bien en soient des arpenteurs, les connaissent bien et en rendent des réalités un peu à la manière dont Léon Paul Fargue fut un piéton de Paris ou Henri Calais, voilà.
Oui, donc tu dis aussi que les auteurs de ces 13 nouvelles ne sont ni sociologues, ni ethnologues, ni journalistes. Ce n'est pas un souci d'exotisme qui les guide. Ils habitent ces départements qui cernent la capitale, où, comme tu viens de l'expliquer, aiment les parcourir. Et puis, ils ont fait aussi le choix du noir, c'est-à-dire ce genre littéraire, je te cite, hein, témoin de son temps, qui éclaire les zones d'ombre et saisit le vif. Et donc, alors, comment tu as rencontré, tu as choisi ces auteurs, Hervé ?
Voilà, c'était un exercice à plusieurs contraintes, puisqu'il fallait que, pardon, il fallait qu'il y ait quand même une espèce de, ça ne pouvait évidemment pas être exhaustif, mais il fallait qu'il y ait une variété de territoires. Il s'agissait pas, même si bien évidemment il y a des textes qui se passent dans le 93, bien connu des médias, si souvent évoqué, si mal par les médias, mais il était hors de question qu'il y ait la moitié des nouvelles qui se passent là, par exemple. Il fallait un peu donner des, justement, la volonté était surtout celle de ce kaléidoscope, de cette diversité, et donc, eh ben voilà, il a, et en même temps d'avoir une qualité de récit avec la tension d'une nouvelle noire, et en même temps une qualité d'écriture, évidemment. Et donc en fait, ça a été plus ça n'a pas été si compliqué. Il y avait, avec les éditrices d'Asphalt, on a mis des noms en commun, et puis on a activé nos relations, dirons-nous, avec des écrivains, et
le résultat est
donné. Le résultat qui voilà, est dans les mains, je ne raconte pas ça comme une espèce de... mais ça a été un peu un bonheur, parce que sauf impossibilité, les écrivains ont tous été en fait contents de s'emparer de cela, et continuent d'ailleurs à s'en emparer, puisque il multiplie avec des combinaisons différentes des rencontres dans des banlieues parisiennes,
mais
à Strasbourg, à Arras.
Voilà, le premier mai dernier, il y avait plusieurs des auteurs.
Et bientôt en Pays de Bigoudin.
D'accord. Voilà. Et il faut vraiment le préciser, ce sont 13 nouvelles noires inédites. Des textes qui ont été écrits.
La volonté était celle-là. Il n'y a aucune... Il n'y a aucune reprise, ce sont des nouvelles qui ont été écrites pour ce recueil.
Alors Hervé, tu as choisi d'organiser ce recueil en quatre parties qui permettent de situer les différentes nouvelles de ce recueil par famille quelque part. Hein. La partie 1, c'est offensé et révolté. Partie 2, tentative d'évasion. Partie 3, Scarface des banlieues. Et là, bon, joli clin d'œil, il y a un Scarface qui est une baronne, ça s'appelle la baronne de Marc Fernandez à Neuilly-sur-Seine. Et puis, aussi la dernière partie, fantôme du passé, puisque les banlieues parisiennes ont une histoire. La banlieue, d'une manière générale, et notamment la banlieue ouvrière, la banlieue rouge, hein, que l'on connaît, a tu as une histoire et trois auteurs reviennent sur cette histoire.
Oui, complètement, complètement. C'était aussi cela, c'est-à-dire que la fiction noire, elle va derrière le miroir, elle va gratter les choses, elle va chercher là où on ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a de l'autre côté, mais il y a aussi ce souci de faire revivre que ce soit une mémoire ou des hommes que l'on a tendance à, que l'on veut parfois effacer. C'est-à-dire que, de même qu'une nouvelle, comme ce n'est pas une question de préférence, mais de même, par exemple, qu'une nouvelle comme celle de Christian Roux met en scène une jeune femme qui est un peu une invisible, c'est-à-dire qui habite le Val-Fouré, la cité de Mantes-la-Jolie, mais qui est, comment dire, femme de chambre dans un Hilton ou un grand hôtel de la capitale. Et de même, par exemple, Anne Secret, dans cette partie que tu cites, Fantôme du passé, et dans une nouvelle qui s'appelle Les ombres du trapèze, elle va faire revivre l'histoire de l'usine Renault,
Boulogne-Billancourt,
35 000 ouvriers, qui a été quand même une usine phare de l'industrie, mais également un lieu de bataille, de lutte, la CGT, les Mao dans les années 70, l'assassinat de Pierre Auvernet par un vigile, c'est-à-dire un lieu absolument pétri d'histoire, absolument indispensable pour comprendre les luttes du XXe siècle, et dont en même temps aujourd'hui, il ne reste, on a mis à la place une très belle architecture moderne de ville en gentrification, mais par contre, comme elle l'écrit, je crois, il ne reste qu'un portail, le portail de la porte Émile Zola, je crois, l'entrée Émile Zola, où même les lettres de Renault n'apparaissent plus.
Oui.
C'est-à-dire que dans une décennie ou plusieurs, personne ne saura qu'il y avait là les usines Renault.
Voilà. Alors c'est toujours difficile de parler d'un recueil de nouvelles, surtout celui-là, parce qu'il y a 13 textes vraiment très très variés, très très intéressants.
Ah oui, puis on peut être à la fois dans les cités de quartiers populaires, on peut être à la prison de Fleury-Mérogis avec Chloé Mehdi, on peut être dans la forêt de Fontainebleau, on peut être, comme tu l'as dit, la baronne se passe dans le quartier huppé de Neuilly.
Voilà.
Mais en tout cas, il y a toujours cette volonté de montrer des hommes et des femmes, et ça c'est le propre de l'essence du roman noir dont on parlait avec Ravet, c'est-à-dire qu'ils sont en tout cas, pas toujours des perdants, mais en tout cas toujours des gens que la vie a bousculés ou abîmés, oui.
Alors donc absolument à lire, Banlieue parisienne noire aux éditions Asphalt, et donc vous l'aurez compris, un livre présenté par Hervé Delouche. Alors il y a une playlist en fin d'ouvrage, et bon, j'ai choisi un clin d'œil au dernier texte de Patrick Péchereau à Nanterre, et ça s'appelle « Le jour où Johnny est mort ».
Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Je suis dans le noir, j'ai du mal à croire.
C'était Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission de radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, encore merci.
Un grand merci Guy et un grand merci de voilà de d'avoir aussi invité le coordinateur de ce recueil.
Rendez-vous dans un mois pour de nouvelles variations en noir. D'ici là, de très bonnes lectures à toutes et à tous.